VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 23 novembre 2023. La trêve dans les combats de la bande de Gaza débutera demain vendredi matin, a annoncé aujourd'hui le Qatar, qui a mené la médiation entre Israël et le Hamas. Les Américains célèbrent aujourd'hui la Thanksgiving, comme chaque année, le quatrième jeudi du mois de novembre.
On mange bien et on s'amuse, alors oui, c'est une belle fête dans l'ensemble.
Reportage à suivre au cœur d'une parade dans le comté de Montgomery, dans l'état du Maryland. Visite au Mali du général Abdourahmane Tiani, première sortie à l'étranger du chef du régime militaire de Niamey. Au Libéria, le nouveau président Joseph Boakai appelle à l'unité dans son premier discours. En RDC, le gouvernement et l'ONU signent un plan de retrait des casques bleus. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas palestinien entrera en vigueur vendredi matin et les premiers otages seront libérés dans l'après-midi, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Alexandrine Ologno.
La pause humanitaire débutera à 7h vendredi et le premier groupe de civils otages sera libéré aux alentours de 16h le même jour, a déclaré Majid Al-Ansari, en précisant que 13 femmes et enfants seront libérés. Cette trêve comprendra un cessez-le-feu complet dans le nord et le sud de la bande de Gaza, a précisé M. Ansari aux journalistes à Doha, ajoutant que les Palestiniens seraient également libérés des prisons israéliennes dans le cadre de l'accord. Cette première pause dans la guerre qui dure depuis 7 semaines devrait s'accompagner de la libération de 50 femmes et enfants pris en otage par des militants du Hamas en échange de 150 détenus palestiniens des prisons israéliennes. Israël a déclaré que la trêve pourrait durer au-delà des 4 premiers jours à condition que le Hamas libère au moins 10 otages par jour. Par ailleurs, le directeur de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire palestinien, a été arrêté par les forces israéliennes qui ont déclaré que c'était à cause de l'utilisation présumée de l'établissement par le Hamas. L'armée israélienne qui a effectué un raid sur l'hôpital la semaine dernière a affirmé que les combattants du Hamas utilisaient un complexe de tunnels situé sous l'établissement pour organiser des attaques. Le Hamas et les responsables de l'hôpital ont démenti ces allégations à plusieurs reprises.
Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron s'est entretenu aujourd'hui à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après s'être rendu dans le sud d'Israël pour y voir de ses propres yeux les localités et communautés attaquées par le Hamas palestinien le 7 octobre. L'ancien premier ministre britannique, nommé chef de la diplomatie il y a seulement 10 jours, devait ensuite rencontrer des responsables palestiniens pour évoquer le conflit dans la bande de Gaza où Israël a lancé une vaste opération militaire contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre. L'actrice tunisienne Hind Sabri, basée en Égypte, a annoncé avoir renoncé à son rôle d'ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial de l'ONU pour protester contre le recours, selon elle, à la famine et au siège comme arme de guerre à Gaza. Le PAM a remercié l'actrice dans un communiqué louant sa réponse rapide aux situations d'urgence ayant permis à l'organisation de fournir une aide alimentaire au moment opportun à ceux qui en avaient le plus besoin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, pour sa première sortie officielle, le général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, s'est rendu à Bamako, visite d'amitié et du travail au cours de laquelle les questions sécuritaires ont été dominantes. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, fait le point.
Accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta, le président de la transition nigérienne en visite d'amitié et de travail au Mali a eu un tête-à-tête avec son homologue malien. C'était l'occasion pour le général Tiani de remercier les autorités maliennes pour leur soutien au lendemain de leur coup de force. Cette première visite officielle du général Tiani a été mise à profit pour saluer le soutien du Mali et du Burkina qui assistent son pays dans l'embargo qu'il traverse et aussi d'évoquer la situation de leur alliance commune, l'alliance des États du Sahel. Après Bamako, le général Tiani s'est rendu au Burkina dans la soirée pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré et évoquer les mêmes questions que celles de Bamako. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Les autorités de la transition issue d'un coup d'État au Burkina Faso ont lancé ce jeudi à Ouagadougou la construction de la première raffinerie d'or, principale ressource minérale du pays, dont la mise en service est prévue dans 11 mois. Cette raffinerie aura une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or pur à 99,99%, soit environ 400 kg d'or par jour, selon Ismaël Sibi, président directeur général de Marena Gold, société co-gérante de la raffinerie. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a appelé mercredi à l'unité nationale dans son premier discours après son élection à une très courte majorité. Les précisions avec Dili Diko.
Joseph Boakai, 78 ans, vétéran de la politique libérienne, a remporté 50,64% des voix contre 49,36% pour George Weah, ancienne star du football et président sortant. Les élections sont désormais terminées et nous devons nous unir comme un seul peuple pour reconstruire notre pays, a-t-il déclaré dans un discours devant la presse. J'implore tous les Libériens, quelle que soit leur origine ethnique, leur pays, leur religion et leur affiliation à un parti politique, de se joindre à nous dans ce voyage pour sauver notre pays, a-t-il ajouté. Dès vendredi soir, M. Weah, élu en 2017, a reconnu la victoire de son adversaire au vu de résultats presque finaux, s'attirant les éloges pour avoir ainsi favorisé un transfert de pouvoir non violent. Nous avons tous gagné. Ce qui s'est passé dans notre démocratie au cours des 4 derniers jours est une victoire pour le Libéria et sera un héritage pour nous en tant que peuple et marquera la prospérité pour toujours, a conclu M. Boakai.
Tous les partis politiques au Soudan du Sud doivent pouvoir faire campagne librement, a exhorté aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU un an avant des élections plusieurs fois reportées. Les Sud-Soudanais doivent se rendre aux urnes fin 2024 pour la première fois depuis leur accession à l'indépendance au Soudan en 2011 dans le cadre d'un accord de paix signé en 2018 qui a mis fin à une guerre civile sanglante dans le plus jeune pays de la planète. Mais le gouvernement d'Union nationale n'a pas réussi à mettre en œuvre de nombreuses dispositions clés de l'accord et de sérieux doutes subsistent au sein de la communauté internationale quant à la tenue des élections à la date prévue. La MONUSCO, mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, dit avoir signé avec le gouvernement un plan de retrait de ses troupes sans donner plus de détails sur le calendrier. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, la mission de l'ONU, présente en RDC depuis 1999, parle d'un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable du pays. La note contient un plan et un calendrier de retrait, mais la MONUSCO n'a pas donné assez de détails, se contentant d'indiquer qu'il sera mis en œuvre en 3 phases. Ces dernières années, l'impopularité de la mission n'a fait qu'augmenter. Son personnel a été souvent attaqué, car perçu comme inefficace face à la violence des groupes armés. Depuis le début de l'année, le gouvernement congolais martèle qu'il souhaite un départ accéléré de la MONUSCO. Avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars, les forces de maintien de la paix sont présentes en République démocratique du Congo depuis près de 25 ans, mais des groupes armés continuent d'endeuiller l'est du pays. Environ 14 000 casques bleus sont déployés en RDC. Les débats au Conseil de sécurité de l'ONU pour le renouvellement du mandat de la mission doivent débuter le 30 novembre. Le nouveau mandat de la MONUSCO devrait être présenté autour du 20 décembre, date des élections générales en RDC.
Les autorités kényanes vont privatiser 35 entreprises publiques et étudier l'ouverture du capital de 100 autres, a déclaré aujourd'hui le président William Ruto. Le pays d'Afrique de l'Est étant confronté à des problèmes de liquidité et à des difficultés économiques. Locomotive d'Afrique de l'Est, l'économie kényane a été sérieusement ébranlée par le Covid, puis l'onde de choc de la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la corne de l'Afrique. Au moins 96 personnes ont péri en Somalie lors rapport d'inondations causées par des pluies diluviennes qui touchent depuis plusieurs semaines le pays de la Corne de l'Afrique, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Un précédent bilan donné lundi par l'Agence somalienne de gestion des catastrophes faisait état de 50 morts et plus de 700 000 personnes déplacées. Les autorités de Mogadiscio ont décrété le 12 novembre l'état d'urgence face à l'ampleur de la catastrophe. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
Un peu plus de 26 millions de dollars, c'est le montant de la somme encaissée le 22 novembre 2023 par le Trésor public du Burkina Faso au niveau du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette somme, selon Financial Afrique, a été levée au terme d'une émission simultanée de bons assimilés du Trésor de maturité 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor. Le Kenya pourrait perdre jusqu'à 7,25% de sa production économique d'ici 2050 s'il ne prend pas des mesures énergiques pour s'adapter au changement climatique et en atténuer les effets. C'est ce que révèle un récent rapport national publié par la Banque mondiale et portant sur le climat et le développement du Kenya. Le Black Friday, journée incontournable de shopping aux États-Unis qui s'exporte de plus en plus, promet de battre des records cette année. Selon la Fédération nationale du commerce de détail, plus de 182 millions de personnes devraient faire des achats en boutique et sur Internet pendant la Cyber Week qui s'étend du jeudi de Thanksgiving, le 23 novembre, au lundi suivant le Cyber Monday. C'est près de 16 millions de plus qu'en 2022 et un record depuis le début de son suivi en 2017.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Mondial de moins de 17 ans, le Sénégal dépose un recours à la FIFA après son élimination en huitième de finale.
Oui, après un score de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire, les Lionceaux de la Teranga sont tombés face à la France au tir au but, 5 tirs réussis contre 3. La Fédération sénégalaise de football dénonce l'inéligibilité de Yanis Issoufou, joueur de l'équipe de France qui possède deux nationalités, nigérienne et française. Selon le courrier de la Fédération sénégalaise, Yanis Issoufou avait joué pour le Niger lors du tournoi de la zone UEFA B, qui est une compétition officielle qualificative à la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, et elle-même qualificative à la Coupe du Monde Indonésie 2023. Pour rappel, le Mali et le Maroc ont arraché leur ticket pour les huitièmes de finale et vont s'affronter en quart de finale ce samedi 25 novembre. Une certitude donc, l'Afrique aura un représentant en demi-finale. Pour les autres quarts de finale, l'Allemagne fera face à l'Espagne, l'Argentine va défier le Brésil et la France va affronter l'Ouzbékistan.
L'entraîneur du Bayern Munich fustige le calendrier surchargé.
Thomas Tuchel critique le calendrier surchargé qui n'est fait ni pour le bien du jeu, ni pour celui des joueurs selon lui. Le Bayern Munich, actuel deuxième et toujours invaincu en Bundesliga derrière le leader Leverkusen, se déplace demain sur la pelouse de l'avant-dernier Cologne, 24 heures seulement, après le retour de deux de ses internationaux, le Canadien Alphonso Davies et le Sud-Coréen Kim Min-jae. L'entraîneur du club bavarois soutient que ses joueurs sont fatigués mentalement et épuisés physiquement. Le Bayern et le Borussia Dortmund comptaient tous deux 5 joueurs dans l'équipe d'Allemagne pour la récente série de matchs amicaux.
Ici en NBA, San Antonio enregistre sa 10e défaite consécutive.
Oui, les Spurs ont enchaîné une 10e défaite de suite en perdant à domicile face aux Los Angeles Clippers 109 à 102. Le prodige français Victor Wembanyama a compilé 22 points, 15 rebonds, 3 passes et 3 contres. Jusqu'ici, San Antonio présente un bilan de 3 victoires et 12 défaites et pointe à la dernière place de la conférence Ouest, dominée par Minnesota qui a conforté sa place de leader grâce à sa victoire 112 à 99 face à Philadelphie, privée du MVP camerounais Joel Embiid, touché à la hanche. Oklahoma City a aligné un 6e succès consécutif contre Chicago, 116 à 102. Brooklyn a perdu après prolongation, 147-145 face à Atlanta. Les Los Angeles Lakers ont été douchés à domicile par Dallas en fin de rencontre, 101 à 104. Boston a solidifié sa première place en dominant Milwaukee, 119-116 dans le choc au sommet de la conférence Est. Le champion Denver est tombé pour la cinquième fois de la saison à Orlando, 124-119.
Page d'espoir VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, qui devait commencer ce jeudi, a été reporté au moins jusqu'à demain vendredi, alors qu'un premier groupe de 13 otages, femmes et enfants, doit être libéré à 14h temps universel ce même vendredi. Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la libération de 50 otages israéliens, tous des femmes et des enfants, en échange d'une pause de 4 jours dans les combats et de la libération de quelques 150 prisonniers palestiniens. Israël affirme qu'après le cessez-le-feu, les combats reprendront à Gaza. Linda Grandstein en dit plus dans ce reportage réalisé à Jérusalem et repris par Gabi Dorsil.
Après des semaines d'efforts de la part du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu de 4 jours en échange de la libération de 50 otages israéliens, tous des femmes et des enfants. Israël a également accepté de libérer 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs. Le Hamas remettra les otages par étapes à la Croix-Rouge qui les transférera aux soldats israéliens. Israël affirme qu'ils seront conduits dans des centres médicaux isolés à l'intérieur d'Israël pour retrouver leur famille et subir des examens médicaux. Chaque jour, 12 ou 13 otages seront libérés, dont le premier groupe, vendredi à 14h TU. Le cabinet israélien a approuvé l'accord lors d'une session nocturne mardi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la nation est confrontée à une décision difficile.
Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir, mais c'est une décision juste. L'ensemble des services de sécurité la soutiennent pleinement.
Israël a publié une liste de 300 prisonniers palestiniens, femmes ou jeunes âgés de moins de 19 ans, dont la moitié sera libérée en échange des 50 otages israéliens. D'autres pourraient être libérés si le cessez-le-feu est prolongé. L'une des personnes figurant sur la liste est Ubay Abu Maria, 18 ans, dont le père Youssef a lui-même été emprisonné par Israël à 5 reprises. Youssef dit que son fils a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans.
Ubay a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans et il est maintenant blessé, ayant perdu le contrôle des 70% de son bras. Je suis très heureux qu'Ubay sera bientôt dans mes bras.
La guerre a commencé après que les combattants du Hamas, groupe désigné comme terroriste par les États-Unis, ont pénétré en Israël le 7 octobre et tué quelques 1200 personnes et enlevant 240 autres, pour la plupart des civils. Israël a répondu par des frappes aériennes massives et une invasion terrestre qui a tué déjà au moins 14 000 personnes à Gaza, dont plus des 2/3 sont des femmes et des enfants, selon le Hamas. Pendant les 4 jours de trêve, Israël autorisera l'entrée à Gaza de grandes quantités d'aide humanitaire, y compris carburant. Mais les responsables israéliens affirment qu'après la fin du cessez-le-feu, Israël reprendra son offensive contre le Hamas. Le général de brigade Yaakov Amidror est un ancien chef du Conseil national de sécurité d'Israël.
Contrairement à de nombreux Israéliens, je pense qu'il est très clair pour les décideurs qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Le sentiment israélien ne les laissera pas s'arrêter. S'ils arrêtent la guerre après les 4, 5, 6 jours du cessez-le-feu, ce sera la fin de ce gouvernement.
Pour les familles des otages en Israël, c'est une période de tension insupportable où elles attendent de savoir si leurs proches seront libérés.
Après 2 mois de la COP28 à Dubaï, Oxfam et l'Institut de l'environnement de Stockholm ont publié un rapport sur le dérèglement climatique et les inégalités extrêmes. Cette nouvelle recherche présente des faits inquiétants concernant les émissions de carbone par les pays les plus riches. Kadiatou Traoré a joint à Nairobi Fatine Ziassan, directrice d'Oxfam International pour l'Afrique, pour savoir comment son organisation compte utiliser les conclusions de ce rapport pour lutter contre les inégalités et le changement climatique sur le continent.
Et alors, en effet, nous avons fait un lien direct entre cet excès de pollution au carbone par les 1% les plus riches et la montée des températures qui crée d'événements climatiques extrêmes, une pluviométrie complètement déréglée. Donc, ça a beaucoup d'implications. L'une des implications, c'est évidemment la montée de l'occurrence de certaines maladies, mais également une baisse de la production alimentaire. On estime que cet excès de pollution par les 1% les plus riches est suffisant pour anéantir la moitié de la récolte de l'Afrique tout entière. Donc notre rapport démontre que cet excès de pollution par les 1% les plus riches de la planète est suffisant pour causer la mort d'1,3 million de personnes. C'est l'équivalent de la moitié de la population du Gabon et c'est absolument insupportable.
Oxfam propose de réduire significativement les inégalités grâce à une redistribution mondiale des revenus. Pourriez-vous nous expliquer comment cela pourrait être mis en œuvre ?
L'inégalité, elle est visible à plusieurs niveaux, notamment par rapport au fait que, vous en doutez, plus de 80% de ces super-riches viennent des pays développés, mais les personnes qui subissent le plus les événements climatiques extrêmes viennent de pays en voie de développement qui ne contribuent pas ou qui contribuent très très peu ou très marginalement à la pollution et au changement climatique. Parmi les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique, 7 sont en Afrique. Les personnes les plus touchées sont les personnes les plus économiquement vulnérables. Et donc la solution pour nous, c'est de taxer les riches et de taxer les multinationales aussi, notamment celles qui opèrent en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à un manque à gagner de plus de 88 milliards de dollars par an en termes de flux financiers illicites, c'est-à-dire qu'on a des compagnies, des multinationales qui opèrent en Afrique et qui arrivent à échapper aux trésors nationaux et à rapatrier l'ensemble de leurs bénéfices dans leurs pays qui sont déjà développés. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de déjà appliquer les schémas fiscaux existants, mais également créer de nouvelles taxes qui s'appliquent aux super-riches. Et cela va permettre de financer l'action climatique dans les pays les plus touchés à travers les mécanismes traditionnels, mais également à travers des mécanismes tels que les deux fonds créés sous l'égide des COP, notamment le Fonds vert pour le climat, qui est déjà opérationnel, et le Fonds pertes et dommages, qui va être opérationnalisé, nous l'espérons, très bientôt lors de la COP 28.
Comment Oxfam Afrique compte-t-elle utiliser les conclusions de ce rapport dans ses activités pour lutter contre les inégalités et le changement climatique en Afrique?
Alors nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que l'action climatique soit financée par ce genre de financement, c'est-à-dire des taxes appliquées sur les super-riches, sur les multinationales, que ces fonds notamment soient financés et pour qu'ils servent véritablement la justice climatique.
Fatih Nzi Hassan, directrice Afrique d'Oxfam.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Nigeria, les jeunes cherchent des happy hours en s'adonnant à diverses activités pouvant les divertir, mais aussi leur apporter de l'argent, surtout en cette période de crise économique. L'une d'elles est offerte par une société de bookmakers en ligne qui propose des paris sur les événements sportifs majeurs. Fondée en 2012, KC Gaming Network est la marque de paris sportifs la plus reconnue pour des millions de jeunes Nigériens sans emploi. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Femi Samuel est un client passionné de Bet Naja, le pari sportif en ligne et le jeu le plus joué au Nigeria ces dernières années. Depuis 3 ans, il joue régulièrement à ces jeux. Avec l'enjeu des matchs prévus du jour, il est arrivé tôt dans la boutique Bet Naja dans la cité de Kwarimpa pour parier.
Pour être sincère avec vous, j'ai gagné beaucoup d'avantages avec Bet Naja. Je peux dire avec fierté que j'ai acheté ma première parcelle de terrain avec l'argent que j'ai reçu de Bet Naja. Comme vous le savez, le salaire n'est peut-être pas assez. Parfois même avant le 30 du mois, vous avez beaucoup de dépenses à faire et vous devez aussi payer des factures.
En tant que jeu de paris de football en ligne, Bet Naja présente à ses clients des ligues de football réelles, des noms d'équipes de football réelles, notamment la Ligue nationale, la Première Ligue anglaise, la Serie A, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande, entre autres. Certains parieurs aiment le jeu en ligne pour se distraire.
I like to play Bet Naja because I play it for my own pleasure.
J'aime jouer Bet Naja parce que je joue pour mon plaisir, mais pour les autres, ils jouent, si je peux dire ainsi, dans le but de gagner quelque chose de raisonnable à la fin. Mais pour moi, je joue pour le plaisir, pour la compagnie d'autres personnes.
Certains jeunes Nigériens ont abandonné des emplois rémunérateurs pour se concentrer sur les paris sportifs avec l'espoir de gagner une somme importante un jour et de pouvoir changer leurs conditions de vie, surtout en cette période de crise économique. Mais comme dans un match de football réel, gagner n'est pas souvent chose facile.
Le jeu est un jeu de chance. Vous pouvez venir demain et gagner, et un autre jour, vous perdez. Donc, c'est un jeu de chance. Nous avançons progressivement et il n'y a aucun problème avec le jeu. Certaines personnes gagnent et d'autres perdent, c'est tout.
L'absence de réglementation pour contrôler l'industrie qui attire de nombreuses sociétés de paris en ligne au Nigeria est un autre problème. Certains y voient des aspects positifs.
Avec l'introduction de ces jeux de paris, vous découvrez que le taux de criminalité a beaucoup diminué dans la société. Ce n'est pas comme si les paris étaient quelque chose de meilleur, vous comprenez? Ce n'est pas non plus comme si c'était plus sacré que ce qu'ils faisaient avant. Mais si vous vérifiez, c'est en fait quelque chose qui a diminué les problèmes dans la société d'aujourd'hui.
Bet Naja revendique environ 57,6 millions de visiteurs sur une base mensuelle sur son site en ligne et se présente comme la marque de paris sportif la plus reconnue, la plus fiable et la plus respectée au Nigeria pour des millions de jeunes sans emploi. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Ici aux États-Unis, le comté de Montgomery dans l'État du Maryland a donné le coup d'envoi des fêtes de fin d'année avec son traditionnel défilé annuel de Thanksgiving. Sims Lumami était à Silver Spring pour nous donner un aperçu des festivités le week-end dernier. Récit Alexandre Nolognon.
De grandes dindes et pingouins gonflables, des fanfares, des groupes de danseurs ont rempli les rues adjacentes à Veterans Plaza dans le centre-ville de Silver Spring. Des centaines de personnes sont venues assister à la parade annuelle de Thanksgiving du comté de Montgomery.
C'est un excellent moyen de sortir et d'être avec notre communauté et de montrer à nos enfants toutes les différentes cultures que nous côtoyons et avec lesquelles nous vivons. Et oui, c'est un excellent moyen de sortir et de célébrer Thanksgiving.
Le défilé est l'occasion pour les parents et les enfants de passer une journée ensemble.
Nous sommes ici pour voir le défilé. Nous voulions amener les garçons à assister à la parade. Nous habitons à quelques kilomètres d'ici.
Particulièrement fiers d'entretenir l'esprit de fête, de nombreux habitants de Silver Spring sont sortis avec enthousiasme. Ils sont arrivés très tôt pour soutenir leurs enfants qui participaient ou dansaient pendant le défilé.
Cette manifestation est importante parce qu'elle présente différents aspects de la culture du monde entier. Elle permet également de sensibiliser les communautés en invitant les vendeurs à venir présenter ce qu'ils font. Et c'est toujours un honneur en tant que parent de venir célébrer et soutenir sa fille.
Je m'appelle Ami. Je viens de Canberra en Australie et nous sommes ici pour nous amuser et faire la fête.
Silver Spring est une ville du comté de Montgomery qui ne cesse de croître et qui compte de nombreuses communautés d'origine et de cultures différentes. Ce qui confère à cet événement une importance toute particulière. La parade met en valeur non seulement la diversité culturelle, mais aussi le talent des artistes. Un événement fantastique pour tous les âges.
Honnêtement, c'est le moment idéal pour se réunir avec des amis et les remercier pour tout ce dont ils sont reconnaissants. On mange bien et on s'amuse, alors oui, c'est une belle fête dans l'ensemble.
C'est probablement la 10e ou la 15e fois que je viens ici. C'est le coup d'envoi de la saison des fêtes de fin d'année. Et Thanksgiving est le premier événement de la saison, ce qui est très important pour nous et notre famille, parce que c'est l'un des rares moments où nous pouvons tous nous réunir et apprécier les cadeaux que nous avons tous reçus et la famille que nous formons.
Au fil des ans, ce défilé a pris de l'ampleur et de l'importance. notamment en raison de l'évolution et de l'augmentation constante de la population du comté, au grand bonheur des habitants de Silver Spring.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une